Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Trentner.
RFI midi légèrement remanié à partir de ce lundi. Vous avez pu entendre dans le journal tout à l'heure vos rendez-vous habituels consacrés à l'actualité française, puis notre grand reportage à écouter désormais chaque jour. Et après cela, je vous retrouve pour 2 heures de reportage et d'analyse en Europe d'abord, puis Afrique midi à midi et demi temps universel. Ça ne change pas, bien sûr, pas plus que le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À la une aujourd'hui, lundi 28 octobre, la Géorgie à quelques heures d'une grande manifestation de l'opposition pour dénoncer les résultats officiels des législatives et la victoire annoncée du parti au pouvoir, pro-russe.
Ils ont donné de l'argent aux gens pour qu'ils votent pour eux, c'est vraiment honteux, mais qu'est-ce que je peux y faire ?
La jeunesse désabusée après un scrutin que l'opposition qualifie de frauduleux. Même tonalité du côté des États-Unis, des observateurs européens ou encore de Berlin qui parle à l'instant d'irrégularité significative. Et ce scrutin vient souligner encore un peu plus le gouffre qui existe entre l'Union européenne et son président en exercice, Viktor Orban. On en parle dans un instant. Au sommaire également, la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. L'incertitude politique au Japon après des élections perdues par la coalition au pouvoir. Elle n'a plus de majorité absolue, mais l'opposition ne semble pas en mesure de gouverner. Nous demanderons à notre invité dans 3 quarts d'heure quels sont les scénarios possibles désormais. Et puis on parlera aussi de la campagne électorale aux États-Unis. Nous sommes à 8 jours du scrutin. Le camp Trump multiplie les déclarations haineuses et racistes. Les dernières en date ont ciblé les latinos hier lors d'un meeting à New York. Et on parlera justement de ce vote latino, de cette communauté qui émerge aux États-Unis. Ils sont de plus en plus nombreux à voter. On en parlera avec notre invité à partir de 13h, temps universel.
RFI midi, l'Europe à midi.
Et pour commencer donc l'actualité en Europe et la tension qui ne retombe pas en Géorgie, des manifestations sont de nouveau prévues cet après-midi. Les jeunes pro-européens dénoncent les résultats des législatives de samedi, remportées avec près de 54% des voix par le parti au pouvoir, proche de la Russie. Écoutez les réactions de certains de ces jeunes hier dans la capitale géorgienne.
Ce résultat est vraiment décevant. C'est horrible ce qui se passe ici en ce moment. Je n'aime pas du tout cette situation. C'est terrible, c'est effrayant. Car je veux que mon avenir soit en Géorgie, pas dans une autre ville ou un autre pays.
Avec un gouvernement pro-russe, notre avenir sera différent. En prenant des décisions pro-russes, je pense que ce sera un retour en arrière.
Réaction au micro de notre correspondant. C'est jeunes, ils se mobiliseront tout à l'heure pour répéter leur inquiétude et leur envie de se rapprocher de l'Union européenne. Théo Renaudon, une grande manifestation est donc prévue cet après-midi.
Oui, l'opposition parle donc, vous l'avez dit, d'une véritable intrusion russe dans le processus électoral. La présidente de la Géorgie, qui a un pouvoir symbolique, elle non plus ne reconnaît pas les résultats de ces élections. Elle dénonce une falsification totale du scrutin. Pour elle, c'est une guerre hybride dans son pays.
Mais alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, les observateurs internationaux ont constaté des achats de votes à des électeurs et des atteintes au secret du vote. D'autres indiquent avoir vu des bourrages d'urnes. Observateurs parfois même agressés physiquement lors du scrutin, selon eux. C'est à partir de ces éléments que l'opposition russe géorgienne pro-européenne dénonce une opération russe. Il faut dire que ce n'était pas du tout les résultats attendus, selon les sondages.
Et donc, c'est avec cette manifestation prévue tout à l'heure que l'opposition débute un rapport de force.
Oui, c'est vraiment vu comme une première étape pour un combat européen du peuple géorgien. Je vous propose d'écouter une figure de l'opposition, Hélène Khochtaria.
Il y a une unité extraordinaire, parce qu'on a toujours dit que si la question était de savoir si la Géorgie devait se tourner vers l'Europe ou la Russie, la réponse du peuple géorgien serait toujours l'Europe. Nous sommes des Européens. S'il faut se battre pour un avenir européen, s'il faut descendre dans la rue, se rassembler, se tenir ensemble, on le fera. On n'abandonnera pas, on ne capitulera pas. La manifestation est la première démonstration de cette unité, où les gens auront l'occasion de dire très haut et très fort au monde entier que la Géorgie se bat pour son avenir européen. La Russie ne gagnera jamais dans ce pays.
Mais pourtant, ce matin, le Premier ministre géorgien, celui qui a le pouvoir et qui est donc accusé d'être pro-russe, a promis qu'intégrer l'Union européenne était sa priorité.
Notre principale priorité en matière de politique étrangère, c'est naturellement d'intégrer l'Union européenne. Ça, ce sont donc ces mots, le Premier ministre Irakli Kobakidze. Il a même promis de tout faire pour que la Géorgie intègre l'Union européenne d'ici 2030. Il faut dire que l'intégration à l'UE pour la Géorgie, c'est censé être super important. C'est un objectif carrément inscrit dans la constitution du pays comme l'intégration à l'OTAN. Mais pourtant, les négociations sont gelées avec Bruxelles, et ce depuis le printemps dernier, l'adoption d'une loi sur les ingérences étrangères en Géorgie, un texte considéré comme pro-russe par l'opposition. Le parti du Premier ministre est de toute façon très critique envers les Occidentaux, qu'ils accusent de vouloir faire du pays un deuxième faux rêve ukrainien.
Alors que la Géorgie semble un point pivot de son histoire, le Premier ministre hongrois Viktor Orban se rend justement à Tbilissi aujourd'hui.
Oui, visite de 2 jours pour Viktor Orban. Il a déjà salué la victoire, je cite, écrasante du Premier ministre géorgien en faisant fi des accusations de fraude par l'opposition pro-européenne. Orban, seul chef d'État de l'UE, a resté proche de Moscou depuis l'invasion russe en Ukraine. Il est même souvent accusé d'être pro-russe, un pro-russe à la tête de l'Union européenne en ce moment, dans le cadre de la présidence tournante de l'UE. Mais il ne représente pas les 27, ici a tenu à dire le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, ce matin.
Voilà le nouvel épisode des tensions entre le Premier ministre hongrois et ses partenaires européens. Et puis une provocation de plus. Aujourd'hui, le gouvernement de Hongrie lance ce lundi une consultation nationale contre ce qu'il qualifie de guerre commerciale initiée par l'Union européenne contre la Chine et la Russie. L'objectif, selon les autorités, c'est de permettre aux Hongrois de dire s'ils veulent s'y associer ou au contraire d'opter pour la neutralité, comme le précise l'une des questions de cette consultation. La Géorgie, c'est donc un nouvel exemple de ces tensions. La Géorgie, où la crainte de liens renforcés avec la Russie s'intensifie depuis quelques mois, depuis le début de la guerre en Ukraine, en fait, à laquelle participe d'ailleurs un important contingent géorgien. Il existe depuis le début de la guerre du Donbass en 2014. Depuis d'ailleurs, l'unité a été intégrée aux forces terrestres de l'armée ukrainienne et notre correspondant Robin Dussen est allé rencontrer ses soldats engagés dans une guerre qui n'est pas la leur.
David nous a donné rendez-vous chez lui après plusieurs vérifications d'usage, contrôle d'identité, carte de presse et accréditation ukrainienne. David, ce n'est d'ailleurs pas le vrai prénom de ce soldat d'une petite quarantaine d'années, un gaillard au crâne rasé et à la barbe finement taillée. Très peu de gens sont au courant de ses activités militaires au sein de la Légion géorgienne, une unité d'élite désormais intégrée à l'armée régulière ukrainienne et dont les membres sont traqués et agressés en Géorgie par les soutiens du gouvernement au pouvoir pro-russe. Sur le muret de sa maison, un pochoir représentant un soldat fusil d'assaut en l'air. Juste à côté, un drapeau géorgien tagué à la peinture noire. David nous accueille dans sa salle de réunion, au sous-sol, sans réseau téléphonique ni internet, toujours par mesure de sécurité.
J'ai toujours porté l'Ukraine dans mon cœur. J'ai toujours eu un lien spécial avec ce pays. Nous avons un ennemi commun, et dans ce cas, l'agresseur, c'était la Russie. J'ai ressenti le besoin de partir.
Au lendemain du début de la guerre, ils sont plusieurs centaines de Géorgiens à faire la queue devant l'ambassade d'Ukraine pour proposer leur aide spontanément. Une bonne volonté qui serait aujourd'hui réprimée. En tout cas, tant que le gouvernement actuel pro-russe reste en place. En militaire expérimenté, David se renseigne et décide dans un premier temps avec une poignée d'amis de soutenir les volontaires désargentés, car s'ils seront payés une fois sur place, ils doivent se rendre en Ukraine par leurs propres moyens.
On a réussi à envoyer 35 volontaires vers la Légion nationale géorgienne. Il ne me restait plus qu'un petit pécule, et alors que j'étais sur le point d'acheter mon billet, j'ai reçu un appel du commandant de la Légion géorgienne, Mamouka Mamoulashvili, me disant que ce dont on avait vraiment besoin, c'était des camions, des pick-up pour être précis.
Deux camions partent alors en direction de la base arrière de la Légion, le troisième est convoyé par David, lui-même, 2 jours et demi de voyage à travers la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie. À son bord, du matériel militaire, sangles de fusil, vestes, ceintures, des jumelles longue portée et un drone piloté en immersion pour pouvant servir de drone kamikaze.
Je voulais vraiment me rendre sur la ligne de front, mais pour contribuer efficacement, il faut faire ce qu'on te demande, pas ce que tu veux faire. Pour chaque soldat qui presse la gâchette, il y a au moins 7 personnes qui opèrent à l'arrière. Quelqu'un doit s'occuper du transport, des armes, des munitions, du renseignement, de la nourriture, de la vision nocturne ou du chauffage.
Je demande alors à David de me montrer des photos de sa mission.
Techniquement, c'est possible, mais je ne suis pas sûr d'en avoir gardé. Et si c'est le cas, ce ne sera que des photos neutres qui ne racontent rien. Tout est une affaire de sécurité. Ce n'est pas une attraction touristique.
Alors que l'interview bat son plein, nous sommes rejoints par Zviad Tsesradze.
Hi. Salut Robin, enchanté.
Nice to meet you.
Cet autre volontaire de la Légion géorgienne a lui un profil bien différent. À 19 ans, l'étudiant en droit est l'un des leaders de la protestation anti-gouvernementale farouchement opposée à la Russie et au rêve géorgien. En août 2008, une guerre éclair de 5 jours a éclaté entre la Géorgie et la Russie autour des territoires séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, deux républiques autoproclamées que Tbilissi a dû céder, aujourd'hui encore occupées par les troupes russes.
Je voulais m'engager dans l'armée géorgienne, mais étant donné mon engagement contre le gouvernement, on m'a recalé. J'avais besoin d'être formé militairement, alors j'ai rejoint la Légion géorgienne. Car tout est possible aujourd'hui en Géorgie, et si quelque chose arrive, je dois être capable de me défendre moi-même, ainsi que ma famille et mon pays.
Pour appuyer son propos, Zviad sort son téléphone et me montre une vidéo. On y voit des raies de lumière dans le ciel pourtant noir de Kiev, accompagnés par le bruit sourd des attaques aériennes.
J'ai vu ces bombardements de mes propres yeux. J'ai tout vu. J'étais juste à côté et c'était vraiment très dur.
Dans cette partie de la ville, les raids sont en effet fréquents, car le quartier abrite les bases arrières de la Légion géorgienne et du bataillon Azov.
Tous les jours, on était dans des situations stressantes, mais j'ai appris beaucoup de choses. Comment utiliser une arme, les différents types de fusils, comment se déplacer. On a aussi appris comment fabriquer un drone, comment le piloter. Personnellement, ça m'a permis de comprendre ce que l'on ressent en situation de guerre.
Depuis bientôt 3 ans, la Légion géorgienne poursuit sa mission de défense et de résistance à l'agression russe, même si le rapport de force n'est pas toujours à l'avantage de Kiev. En juin dernier, Moscou a placé la Légion géorgienne sur sa liste des organisations terroristes.
Reportage de notre correspondant Robin Dussène, aux côtés donc de ces soldats géorgiens engagés en Ukraine. Reportage à écouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10 temps universel. Sur le terrain, l'armée ukrainienne et les combattants étrangers qui la soutiennent sont en grande difficulté. Les forces russes ont encore annoncé ce matin la prise de contrôle d'un village supplémentaire dans l'Est et les crimes de guerre se poursuivent. Emmanuel Chasse, vous êtes en direct de Kiev. Les autorités ukrainiennes dénoncent le meurtre de civils dans une commune proche de la ligne de front et elles en appellent aux Nations Unies et à la Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'on sait de ces exactions, Emmanuel ?
Alors, on a vu des nouvelles vidéos montrant ces crimes commis contre des civils dans la commune de Selidové. C'est dans la région de Donetsk, à environ 18 km de Pokrovsk. Et ce secteur est le théâtre d'intenses combats entre les armées russes et ukrainiennes. Ces vidéos montrent des incidents séparés. D'une part, des soldats russes qui ouvrent le feu sur des civils en voiture. Une personne blessée a ensuite été secourue par des soldats ukrainiens. D'autre part, une seconde vidéo montre deux femmes assassinées dans un quartier résidentiel plutôt calme et sous contrôle russe. Alors, ces images ont été diffusées sur les réseaux sociaux, elles ont fait réagir Kiev. Le commissaire aux droits de l'homme, Dmytro Loubinets, a immédiatement écrit au Comité international de la Croix-Rouge ainsi qu'aux Nations Unies. Et le parquet ukrainien a ouvert une enquête pour crimes de guerre. Ces crimes viennent s'ajouter aux quelques 137 000 cas recensés par l'Ukraine et perpétrés contre la population, mais aussi contre des soldats ukrainiens par les troupes russes. Je rappelle que de plus en plus fréquemment, on voit aussi passer des vidéos d'exécution sommaire de soldats, notamment dans cette région de Donetsk. L'Ukraine parle d'au moins 102 soldats assassinés depuis 2022. Ces crimes vont à l'encontre des conventions de Genève et chacun de ces crimes fait l'objet d'enquêtes pour tenter d'en trouver et d'en condamner les responsables.
Emmanuel Chaz en direct de Kiev, où les autorités annoncent avoir arrêté un volontaire des Nations Unies, un Ukrainien qui travaillait pour le Programme alimentaire mondial. Il est accusé d'espionnage au profit de la Russie.
RFI Midi.
Nous parlions tout à l'heure des élections en Géorgie. On votait aussi ce week-end en Bulgarie et les législatives anticipées n'ont pas permis de faire émerger une majorité claire. Les conservateurs sont en tête, mais avec 37% des voix seulement. Et le parti, dirigé par un ancien Premier ministre, aura beaucoup de mal à former un gouvernement stable, Damien Bonnery-Chernoff.
Après l'annonce des résultats préliminaires, Boyko Borisov s'est engagé à former un gouvernement sans préciser qui serait aux manettes. Se disant ouvert au compromis, il a toutefois mis en garde ses alliés récalcitrants. Nous continuons le changement.
Dès aujourd'hui, certains se sont mis à poser leurs conditions. Et sur les plateaux de télé, ils annoncent avec des voix tremblantes que le grand gagnant de ces élections doit se plier aux demandes de ceux qui ont deux fois moins de voix. Ce n'est pas beau à voir et ce n'est pas juste.
Boyko Borisov n'exclut d'alliance avec personne, sauf l'extrême droite pro-russe de Renaissance, dont les valeurs sont incompatibles avec celles de son parti. Pourtant, toute alliance dépend des résultats officiels.
Le Parlement, c'est des maths. Le nombre de partis est très important. J'ai toujours dit qu'il faut un seuil plus élevé. Avec le seuil de 4% actuel, il peut y avoir tous ces partis au Parlement. Si c'est le cas, je sais dès maintenant qu'il n'y aura pas de gouvernement.
Au cas où 9 partis obtiendraient des sièges, il faudrait une coalition à 4 pour former une majorité et élire un gouvernement. Autant dire que la tâche relève de l'impossible, surtout lorsque les partis sont en campagne électorale permanente en raison des élections trop fréquentes. Damien Vodanicharov, Sofia, RFI.
Ces élections en Bulgarie étaient les 7e en seulement 3 ans. 12h46 ici à Paris et nous vous emmenons maintenant en Suède, pays champion de l'emploi des seniors. Si on peut dire champion, parce que c'est là qu'on trouve le nombre de personnes de plus de 75 ans le plus important encore au travail. 62 000 personnes, un peu plus, il y a quelques mois, ça représente 7% de la population du pays. Et ce chiffre, il a doublé au cours des 2 dernières décennies. Cette évolution, elle s'explique d'une part par la progression de l'espérance de vie, mais aussi par des particularités scandinaves d'ordre culturel, social ou économique, Ottilia Ferré.
Perché sur son escabeau, pinceau à la main, Bernd, 84 ans, s'applique à repeindre le plafond de la cuisine d'une cliente. L'ancien directeur d'école s'est aujourd'hui reconverti en peintre en bâtiment.
J'aime beaucoup la couleur que la cliente a choisie pour les murs. En tout, ça devrait me prendre 12 heures de travail.
Son emploi, qu'il adore, il l'exerce à mi-temps. C'est sa manière de rester actif et au contact des autres.
Je ne me suis jamais senti comme un retraité. J'essaie de vivre à fond. C'est très important de rester enthousiaste, sinon on a vite un pied dans la tombe. Sentir qu'on existe et qu'on est estimé, c'est très important. On sent qu'on a de la valeur. Je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de cette validation. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un homme de 90 ans qui travaillait dans les jardins. J'étais impressionné parce que c'est pas un métier facile.
Ce petit boulot, Bernd l'a obtenu via une agence d'intérim spécialisée dans l'emploi des seniors. Il en existe une cinquantaine dans le pays. Ça lui offre un complément de retraite assez confortable.
Ce travail me rapporte autour de 1000 euros par mois. J'ai investi dans des maisons d'hôtes, on donne aussi aux petits-enfants, où on dépense pour soi, et puis tout est devenu plus cher aujourd'hui.
Peter et Yngve, eux, ont 80 et 83 ans. Ils sont tous deux agents immobiliers à plein temps.
Ah, ça c'est une entreprise qui cherche à vendre. Allô, bonjour, ici Peter. Désolé, ça sonne tout le temps. Parfois j'ai des visites à 23h ou minuit, mais maintenant je suis passé de 18h à 12h de travail par jour.
J'ai eu 3 semaines de vacances d'affilée il y a 1 an. Je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie.
S'ils aiment autant travailler, c'est parce que ça leur permet de conserver un lien social dans un pays où beaucoup de seniors souffrent de la solitude et de l'isolement. Mais c'est aussi parce qu'ils ont encore beaucoup d'énergie.
C'est un style de vie, on rencontre plein de gens. On est encore curieux et c'est vrai qu'on peut s'estimer heureux d'être encore en si bonne santé.
Quand on a beaucoup de boulot, on oublie les maladies. C'est un tout autre système ici en Suède. On est très tourné vers la nature et on s'efforce vraiment de rester en bonne santé physique.
Moi, je vais à la salle de sport, j'y fais du vélo et je soulève des trucs lourds.
Mieux vaut être actif que radioactif. Moi, en tout cas, je veux continuer à travailler et c'est pas pour l'argent. Allez, faut qu'on y aille, on est attendu.
La chercheuse Anita Björklund-Karlstedt, qui étudie la participation des personnes âgées dans la société, explique que la Suède a mis en place de nombreuses politiques et réformes pour favoriser l'emploi des seniors.
Les plus de 65 ans qui continuent de travailler bénéficient par exemple de réductions fiscales et leurs employeurs de charges patronales allégées. Les gens ont conscience que dans la mesure où on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps.
L'espérance de vie en Suède est parmi les plus élevées d'Europe et elle ne cesse de progresser. C'est justement pour cette raison que l'âge de départ à la retraite est régulièrement rehaussé dans le pays. Comme l'explique la chercheuse Loretta Platz, on peut la réclamer entre 62 et 68 ans. Mais pour toucher la pension pleine, il faut aller jusqu'à 66 ans.
Chaque année, tous ceux qui ont cotisé pour leur retraite reçoivent une enveloppe orange, où ils peuvent voir par exemple que s'ils prennent leur retraite à 62 ans, ils recevront tel montant. Et il voit aussi que s'ils attendent jusqu'à 70 ans, ils recevront vraiment beaucoup plus.
Si on se maintient en bonne santé et qu'on veut travailler, peut-être qu'il n'est même pas nécessaire de partir à la retraite du tout.
Alors certes, les réformes ont poussé les plus âgés à rester sur le marché du travail, mais si Stockholm est la capitale européenne de l'emploi des seniors, ça tient aussi au fait que le système offre un équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
Il y a de profondes différences culturelles entre la France et la Suède en termes de mentalité. Ici, c'est perçu comme normal de travailler quand on approche les 70 ans et normal d'avoir envie de travailler. Les gens se disent ainsi qu'ils contribuent au bien de la société. Les choses sont aussi plus consensuelles ici qu'en France. La hiérarchie est plus plate. Il y a ce sentiment qu'on est tous du même côté et du coup, ça rend les lieux de travail beaucoup plus bienveillants et moins exploiteurs, comme ça peut être le cas dans d'autres pays européens. Ici, par exemple, les gens bénéficient d'un très long congé parental. C'est très généreux et tout ça, ça fait que les Suédois ne se retrouvent pas en lambeaux très tôt dans leur carrière. Donc, ils ont encore des choses à donner dans la cinquantaine, la soixantaine et même après 70 ans.
La France compte, elle, 0,07% de personnes de plus de 75 ans possédant encore un emploi, ce qui la place en bas du classement devant la Roumanie et l'Espagne.
Reportage d'Otilia Ferret à retrouver sur l'appli RFI Pure Radio à la page d'Accent d'Europe.
RFI Midi, Bucarest, 93.5 FM.
On va parler maintenant d'une innovation en Allemagne sur les bords de la mer Baltique. Il y fait froid, très froid l'hiver et la petite ville de Neustadt in Holstein mise sur l'eau de mer pour se chauffer. Tout un quartier sera bientôt alimenté par une pompe à chaleur fonctionnant donc à l'eau de mer. Nathalie Versieux, vous êtes notre correspondante en Allemagne. De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit ni plus ni moins que d'utiliser de l'eau de mer, l'une des ressources naturelles les plus abondantes sur la Terre, pour chauffer un quartier. Je précise, il s'agit d'utiliser la chaleur de la mer grâce à une technologie ultra-moderne qui permettra de chauffer tout un quartier, et ce même si la température de cette même eau de mer peut tomber à 4 degrés en hiver. L'eau est chauffée à 72 degrés, essentiellement à l'aide d'énergie propre, comme celle dégagée par une usine de traitement des déchets qui se trouvent à proximité, mais aussi grâce au gaz. Une fois chauffée, l'eau circule dans un circuit de conduite dans le sol du bâtiment, qui chauffe donc tous ces bâtiments, tout en permettant d'économiser 300 tonnes de CO2 par an.
Mais chauffer à l'eau de mer, ça n'est pas possible partout en Allemagne.
Non, effectivement, le quartier dont nous parlons se trouve en fait directement au bord de l'eau. Il s'agit d'anciens entrepôts portuaires en briques, une architecture typique du nord de l'Allemagne, que la ville va transformer en restaurant, commerce, logement, lieu de culture et même un poste de police qui doit s'y installer. Les travaux ont bien avancé. Les éléments de la pompe à chaleur ont été livrés par bateau du Danemark en décembre dernier. Les premiers tests seront réalisés d'ici la fin de l'année et la mise en service est prévue pour 2026.
C'est une expérience unique ?
Même pour l'Allemagne, oui, c'est une première, effectivement, mais il existe déjà des sites équipés au Danemark et en Suède. La pompe à chaleur de Neustadt en Holstein intéresse en tout cas au-delà de la région. Le projet a bénéficié d'importantes subventions en raison de son potentiel. Les pompes à chaleur utilisent un tiers de l'énergie par rapport à un chauffage conventionnel et elles peuvent générer 3 à 8 fois plus d'énergie qu'elles n'en consomment.
Nathalie Versieux, correspondante en Allemagne de RFI.
RFI Midi.
On va parler maintenant des clandestines de l'histoire. C'est une collection de bandes dessinées écrites par Katel Müller et José-Louis Boquet. Depuis quelques années, ils racontent le parcours de femmes qui ont marqué leur temps et leur dernier portrait est celui d'Anita Conti, une militante engagée contre la surpêche dès les années 50 et décédée à la fin des années 90. Les deux artistes à l'origine de cette bande dessinée sont les invités d'Isabelle Chenu.
Katel Müller et José-Louis Boquet, vous brossez à quatre mains, au dessin et au scénario, le portrait d'une femme méconnue, Anita Conti, surnommée aussi la Dame de la Mer, océanographe française. Et ce qu'on peut dire d'elle, quand même, dans sa vie, c'est que c'est une affranchie.
C'est une affranchie parce qu'une femme en début du siècle, surtout bourgeoise, était destinée à être mariée, à faire des enfants et à rentrer dans un système tout à fait conventionnel. Elle n'avait, il ne faut pas l'oublier, pas le droit de vote, pas le droit non plus de faire des études. C'est extrêmement rare, surtout des études scientifiques. Il y a peut-être une Marie Curie, mais la plupart ne pouvaient pas accéder à ce genre de poste. Et Anita Conti, bien que mariée très jeune à Marcel Conti, elle a très vite pris sa vie en main. Elle s'est séparée très amicalement de son mari diplomate pour monter sur les bateaux, ce qui était sa passion, la mer.
Alors, José-Louis Boquet, il y a beaucoup de documentation, de films, d'interviews d'Anita Conti. Ça a été vraiment une pionnière de la lutte pour la préservation des océans.
C'est une autodidacte, donc elle est à la fois océanologue, mais surtout elle est journaliste. Combinant ces deux passions qui sont à ce moment-là l'écriture et la mer, dès le milieu des années 30, elle dénonce la pollution en disant bah, c'est simple, les océans, c'est l'égout de l'humanité. Elle l'écrit telle qu'elle. Et puis, dès la fin des années 30, c'est la première femme à monter sur un chalutier Terre-Neuve. Et c'est des campagnes de 5 à 6 mois. Et là, elle découvre effectivement la surpêche et que ce qu'on appelle de la production, en fait, c'est de la destruction.
Alors vous, Katel Müller, vous lui donnez ses traits au dessin. C'est un gros roman graphique en noir et blanc. Vous la dessinez comme une personnalité très enjouée, en fait, très gaie, très allante.
Oui, elle est très solaire. D'ailleurs, sur toutes les photos, mais même aussi sur les interviews qu'on a d'elle, elle est toujours en train de sourire, ce qui est sa grande force, parce qu'elle parle d'un sujet extrêmement dur quand même, parler de pollution, de surpêche. Et elle fait passer ses messages par son sourire. Et sur les bateaux, ça a été un énorme avantage, parce que on disait que les femmes portaient malheur sur la mer, et donc elles ne pouvaient pas monter sur les bateaux. Eh bien, elle, au contraire, tous les matelots disaient qu'avec elle, c'était la pêche miraculeuse. Parce que non seulement elle les photographiait, elle faisait aussi des cartes de pêche pour trouver les zones les plus poissonneuses au départ. Elle disséquait les poissons, elle faisait des recherches au microscope, elle a beaucoup étudié. Donc elle était très acceptée et en même temps elle se faisait très discrète parce qu'elle n'avait jamais froid, jamais faim, jamais besoin de quoi que ce soit. Elle restait des heures au boulot comme eux et c'est pour ça qu'elle est devenue leur dame de la mer, tout sourire.
Alors Katel Müller, c'est intéressant ce que vous dites parce que se faire discrète, se fondre aussi, ça fait peut-être aussi partie du processus d'invisibilisation des femmes, finalement de ces destins hors normes dont on a peu de traces.
Peut-être que ça en fait partie en effet. Fait parce que déjà elle est arrivée quand même à rentrer dans ce milieu qui n'est qu'un milieu d'hommes. Après, pour y être acceptée, effectivement, être invisible, mais en même temps très présente. Pendant la guerre, on l'a envoyée en Afrique, on lui a donné des responsabilités énormes pour essayer de nourrir la population avec de nouvelles cartes de pêche. Elle a d'ailleurs même reçu la Légion d'honneur pour son travail.
Voilà, Anita Conti, célébrée donc par Katel Müller et José-Louis Boquet, qui étaient les invités d'Isabelle Chenu. La suite sur RFI, dans 3 minutes, un nouveau journal. Et puis dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, comme tous les jours, Afrique Midi. Avec vous, Arthur Ponchelet, et à la une tout à l'heure.
Et à la une, on va évidemment parler de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Le président français doit atterrir en fin d'après-midi dans le royaume. On va aussi parler de cette attaque de Boko Haram au Tchad la nuit dernière. Elle a fait une quarantaine de morts. On y reviendra avec notre invité, Vincent Fouché, chercheur au CNRS.
À tout à l'heure, Arthur Ponchelet. Et avant de vous retrouver et d'écouter le journal dans quelques minutes, je vous propose d'écouter un peu de musique. Dino de Santiago et Luigi Luna, voici le titre Obaya à découvrir en ce moment dans la playlist RFI. Salvador Santiago no Bay, me leva pra onde for. Onde teus pés tocarem o chão, me leva pra longe.
Com você só faz verão.
de mar eu vou. Se for um deserto também se faz frio ou se faz calor. Com você fica tudo bem, qualquer paisagem de amor. Pois com você só faz verão.